De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
Je suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique. C'est délicieux, nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour, des chroniques et un blind test, voilà ce qu'on vous propose pour le sommaire de cette émission avec des films qui sont essentiellement dans les salles depuis le 15 janvier et deux comédies pour toi, Marine.
Oui, tout à fait, bonjour à tous. Alors moi je vais vous parler de Selfie, donc un film à sketch sur les nouvelles technologies et également la nouvelle comédie de Mohamed Hamidi, Une belle équipe.
Et puis toi Manu, tu as vu un film asiatique et un film américain.
Trois aventures de Brooke, un film assez romérien, et puis un film sous-marin qui se passe sous l'eau, Underwater.
Avec des sales bêtes, j'imagine qu'ils remontent. Et puis moi, j'ai vu avec un énorme plaisir 1917 de Sam Mendes, film très attendu, et ce sera l'occasion de jouer un blind test spécial film sur la Première Guerre mondiale, puisque c'est l'objet de ce film. Ainsi débute Cinérama avec bien une première comédie française et plutôt réussie. Ici, hein, Selfie.
This is Cinérama.
Et ça, c'est clair.
Bonjour à tous et merci de nous suivre. Aujourd'hui, on avait envie d'aborder avec Émilie des problèmes de boulimie.
Mais j'ai pas de problème, moi.
Et je vous fais les 100 000 abonnés pour 3 000 euros.
Et à ce prix-là, on peut avoir des commentaires positifs.
Et je le fais pour une comédie française sur deux.
Je ferai qu'au début. Les gens finiront par s'intéresser à nous.
Selfie, c'est un film choral, un film à sketch qui entend se moquer de la façon dont le numérique a envahi nos vies. Au programme donc 5 sketchs réalisés par 5 réalisateurs assez peu connus, hein, il faut le souligner. Thomas Bideguin, Marc Fitoussi, Tristan Orouet, Cyril Gelblat et Vianney Le Basque.
Tu vois, moi j'achète tout sur ce site. Et à chaque fois qu'il me recommande un nouveau truc, j'aime. Jusqu'au jour où l'algorithme me recommande...
La pêche.
Ils ont vu que j'avais la pêche en moi. Ils savent mieux que moi ce que j'aime. Alors j'achète tout. Ben c'est bizarre, c'est parce que j'ai pas de problème de...
Pourquoi tu le commandes pas, ce putain de traitement?
Parce que je veux pas leur céder.
Donc on ne vendra plus jamais dans cette maison.
Chacun de ces 5 sketchs donc a pour thème une nouvelle technologie et les rapports que les personnages vont avoir avec elle seront donc abordés dans ces 5 segments, le stalking, les chaînes YouTube, Twitter, le cyberharcèlement, le leaking, les applis de rencontre et les influenceurs. Alors si vous ne comprenez pas un ou plusieurs des termes employés ici, hein, une petite formation accélérée s'impose avant de voir le film qui s'adresse quand même, disons-le, surtout aux millennials qui vivent à l'instar de la galerie de personnages proposés avec ces technologies en permanence.
Et là, qu'est-ce que je fais maintenant?
Voilà là votre profil, c'est de là que les gens verront votre photo.
Donc tout le monde peut voir ma photo?
Oui, madame.
T'énerve pas, Malik, enfin. Oui, je, pas, j'essaie de comprendre.
Toi, t'as aimé que je te like?
Ah ouais, à mort.
Mais il y en a. Vous savez ce que c'est un stalker?
Un stalker. Surveiller la vie de quelqu'un sur les réseaux sociaux.
IRL, ça veut dire quoi?
Vous savez, pour toutes vos questions, il y a un navigateur qui s'appelle Google. G-O-O-G-L-E.
Alors j'imagine que vous vous rappelez de Black Mirror, hein, la célèbre série d'anticipation britannique dans laquelle l'emploi des nouvelles technologies tourne systématiquement au cauchemar. Eh bien, imaginez cette série, mais alors interprétée par Blanche Gardin, l'une des femmes quand même les plus drôles du monde, hein, n'ayons pas peur des mots. Eh bien, on obtient quelque chose de beaucoup moins cauchemardesque et de beaucoup plus drôle et décalé. Alors dans Selfie, on n'en trouve pas que Blanche Gardin. Hein, pour le reste du casting, eh bien, s'il s'agissait d'un chauffeur Uber, on lui mettrait 5 étoiles. On retrouve également Elsa Zilberstein, qui est ici vraiment touchante. Max Boublil, Manu Payet, Monsieur Fraise, Anna Piaton, Alma Jodorowsky, entre autres. C'est bien simple, il y a un parfait mélange entre comédiens du cinéma d'auteur, de la comédie populaire et d'Internet. Alors on a vu beaucoup de courts-métrages, surtout sur le web, hein, traitant des dérives, des réseaux sociaux, du numérique. Le gros challenge de Selfie, c'était d'étendre et de tenir son propos sur 2 heures. Et c'est là qu'intervient une excellente écriture et un rythme efficace que l'on doit justement à cette segmentation du film en sketch. La force de cette écriture, c'est tout d'abord de très bien gérer les trajectoires des différents personnages qui sont toujours dépeintes avec tendresse. Et sa force également, c'est de réussir à les faire s'entrecroiser à la façon d'un film choral. Le film est très grinçant, très cynique, mais jamais misanthrope. Il ne juge pas ses personnages. Personne ici n'est totalement bête ou totalement détestable. Et de ce fait, eh bien, Selfie, c'est aussi un miroir tendu vers le spectateur, un miroir dans lequel absolument tout le monde se reconnaîtra, que ce soit les pros ou les anti-numériques. Enfin, je pense.
Oui. Et ça touche tous les âges, et y compris dans les personnages. À un moment, on voit vraiment tous les âges qui sont concernés par cette vie oui. numérique. Et à noter aussi la mise en scène, on ne peut pas en dire grand-chose, mais ça tient au fait que ces segments sont réalisés par différents réalisateurs. Mais finalement, dans l'ensemble, tout se tient parfaitement dans les deux heures, et tu as bien raison de le dire. On recommande donc cette comédie française, une comédie française réussie en oui. ce début d'année. Nous passons de la comédie au film de la réalisatrice Yuan King, qui nous livre un condensé entre Romer et Hong Sang-soo.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors c'était sûrement une comédie.
La jeune cinéaste débutante de 31 ans, Yuan King, n'a pas choisi la facilité pour son premier long métrage, placé sous le signe du cinéma de Eric Rohmer, ce qui ne manquera pas de provoquer quelques railleries faciles. Alors pour les admirateurs du réalisateur français, cette influence peut être considérée comme un lourd héritage, à la fois réducteur et facile. Bien sûr, Trois aventures de Brooke rappelle à la fois Quatre aventures de Renette et Mirabel et Le Rayon Vert, référence parfaitement assumée par Yuan King, qui voue une admiration absolue à Rohmer, ce que la présence de Pascal Grégory tend à confirmer, qui a débuté chez lui, et notamment dans Pauline à la plage. À cela s'ajoute une filiation avec la délicatesse de Hong Sang-soo, l'ivresse et la fantaisie en moins, péché de jeunesse d'une auteure qui préfère ne garder que la gravité derrière une apparence trompeuse de légèreté. Alors le film démarre sur un canevas très très simple, faussement conceptuel, Xing Xi, c'est l'héroïne, ce qui veut dire ruisseau en français et Brooke en anglais du coup. Une jeune chinoise est en vacances au nord de la Malaisie, dans une contrée reculée. Elle va vivre trois histoires distinctes et parallèles dont le point de départ est exactement identique. Alors par une journée de grande chaleur, égarée sur un chemin de traverse, elle est victime d'une crevaison de vélo. Voilà le suspense. Ne riez pas. Mais alors, à chaque recommencement, elle fait une rencontre singulière. Alors, rien à voir avec une réflexion sur les hasards et coïncidences telles que se délectaient Alain René ou Christophe Kieslowski. Trois aventures de Brooke ne cherchent pas à construire une mécanique narrative qui constituerait une boucle ou une manière de décliner les « et si Brooke avait fait ceci ou cela ?» Enfin, engendrant, on va dire, une sorte d'observation behavioriste. Son dispositif de départ est au fond une manière de s'échapper de la narration classique pour développer librement, en filigrane, le portrait sensible d'une jeune fille moins superficielle et naïve que le début trompeur laisse supposer avec beaucoup de malice. L'héroïne est montrée alors lors du premier récit, alors très 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 romérien pour le coup, comme une ingénue un peu bébête qui se fait aider par une jeune fille de la campagne, débrouillard et espiègle. Elle va d'ailleurs acheter trois fois son prix un cristal dans une boutique de souvenirs. Alors sombre de conte moral sur la valeur des choses, ce segment très léger contient en creux une douleur qui éclatera dans le troisième segment, le plus long et le plus intéressant. Alors au milieu, une panne d'inspiration avec un récit sans relief. La crevaison sert de prétexte à une rencontre avec des hommes qui vont lui faire une visite guidée et l'empêcher surtout d'aller dans cette boutique pour touristes égarés. Yuan King ne propose là pas grand-chose après un démarrage agréable. Cette partie affiche un ventre mou, déambulation solaire dans une région désertée, permettant à la cinéaste de filmer de jolis paysages dans un style naturaliste conventionnel. Alors, Trois histoires de Brooke est dominée par un ton réaliste qui empêche le film de décoller. Mais la dernière partie s'avère la plus satisfaisante, offrant un très beau rôle à Pascal Grégory dans le rôle d'un sexagénaire solitaire et émouvant, devenant une sorte de confident de Brooke qui laisse alors son cœur parler, ses émotions s'extérioriser. Sa fausse candeur cache en réalité un drame, une souffrance. Elle ne se retrouve pas dans ce lieu verdoyant, loin de la fureur de la ville, par hasard. La promenade légère, au point d'en être insipide, se transforme alors en un beau film sensible sur le sens de l'existence, sur la perte des êtres aimés. La complicité, alors jamais paralysée par quelconque allusion, on va dire sexuelle, c'est pas un couple qui est en train de se former entre Xingzi et le français, assis au bord d'un étang, est subtilement captée par le regard sensible d'une réalisatrice qui sait aussi se taire quand il faut. Alors, un joli film en fin de course qui remet en perspective d'ailleurs le premier segment, le cristal contenant au moins symboliquement une larme qui ne peut pas sortir de la pierre, comme celle de l'héroïne qui n'a pas trouvé encore la personne vers qui se confier.
Trois aventures de Brooke sera sûrement sur quelques écrans français, à l'inverse de 1917 de Sam Mendes qui sera sur une majorité d'écrans. Et c'est de cela dont on va parler, ça nous donne l'occasion de jouer un blind test.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
Vous avez un frère au 2e bataillon.
Oui, mon général.
Ils vont tomber dans un piège. Vous avez ordre de leur remettre un message annulant l'assaut de demain matin. Si vous échouez, ce sera un massacre.
1917 est en course pour les prochains Oscars. Ce film qui nous plonge dans la Première Guerre mondiale a déjà valu à son réalisateur, le Britannique Sam Mendes, la récompense du meilleur réalisateur et meilleur film au dernier Golden Globe. Un succès critique bien mérité pour un film inventif et immersif. Les millions de dollars qu'il a coûté se voient à l'écran. L'originalité de 1917, c'est de nous raconter une histoire en un plan séquence de 2 heures. Alors évidemment, il s'agit de plusieurs séquences mises bout à bout, mais les glissements sont si bien faits qu'on ne se rend compte de rien. Les enjeux de 1917 sont simples. Sur le front français, Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission qui paraît impossible. Ils doivent porter un message à une troupe aux avant-postes qui prévoit de faire une attaque malheureusement vouée à l'échec, se soldant par la mort de milliers de soldats britanniques. Supplément dramatique, dans cette troupe, on trouve un lieutenant qui n'est autre que le frère du jeune Blake.
Si on en parlait 2 minutes.
Pourquoi ? On a l'ordre de traverser ici.
Là, c'est le front allemand.
Tenez bon !
Si on s'y prend mal, personne n'arrivera à rejoindre ton frère.
Ça ne peut se terminer que d'une seule façon.
Durant quasiment 2 heures, nous sommes donc aux côtés de soldats qui vont devoir rejoindre les lignes ennemies. La caméra, une steadicam quasi aérienne, se place devant, derrière, sur le côté, selon les scènes qui sont chorégraphiées au millimètre. Les plans ne sont pas seulement des plans serrés, on a toute une grammaire cinématographique qui s'exprime ici. Sam Mendes fait la part belle à la campagne avec ses longues crêtes. On traverse les tranchées, on entre sous terre dans les boyaux creusés par les Allemands. On traverse un village désolé, simplement éclairé à la fusée. Si le temps est celui du présent, les espaces ne cesse d'évoluer. Alors on navigue des grands aux petits espaces, de la nature avec la vache qui broute tranquillement, au champ de bataille avec ses cadavres puants. La grande idée de ce film, c'est de présenter la Première Guerre mondiale, cette guerre de tranchées, statique, avec des personnages qui doivent être en perpétuel mouvement, permettant d'offrir un éventail de décors qui peuvent paraître inhabituels pour un tel récit. Mais Sam Mendes s'est aussi ménagé des temps de repos, tous remarquables là encore en termes de mise en scène, le son, l'image, le montage concourant à en faciliter la compréhension par le spectateur. Cette mise en scène brillante qui nous plonge un temps donné dans le conflit est accompagnée d'un univers sonore soigné, qu'une musique légère et des nappes discrètes viennent parfois brouiller, mais surtout par une lumière exceptionnelle. Nous ne sommes pas dans une vision naturaliste, ni expressionniste ou même réaliste, mais encore ailleurs, dans un entre-deux où il ne fait jamais ni trop beau ni trop mauvais. Les séquences de nuit sont remarquables, tournées à la lampe à pétrole, à la fusée éclairante ou au détour d'un incendie. 1917 est un film maîtrisé qui fait aussi le pari de mettre en avant deux acteurs peu connus du grand public, l'impressionnant George MacKay, vu dans Captain Fantastic, c'était l'aîné des frères, et Dean Charles Chapman, qu'on peut voir dans Game of Thrones. Il réserve les acteurs les plus connus au rôle de gradés comme Mark Strong, Benedict Cumberbatch ou Colin Firth. Ces personnages viennent parsemer le récit et donnent une autre vision du conflit. Alors, autre parti pris intéressant de Sam Mendes, il met volontiers en avant les visages, les corps de jeunes soldats, de quoi permettre peut-être une facile identification avec les jeunes spectateurs qui n'ont pas connu de conflit armé pour une immense majorité d'entre eux et qui n'ont peut-être jamais eu l'occasion d'entendre des histoires de guerre, en tout cas des deux guerres mondiales, racontées en famille. Sam Mendes, lui, a tiré cette histoire des récits que faisait son grand-père, soldat engagé pendant la Première Guerre mondiale. Enfin, je ne sais pas, je peux vous prendre à témoin. Est-ce que vous avez entendu, vous, des récits de la Première, Seconde Guerre mondiale ? Ce n'est pas si évident.
Quoique moi si, mais c'est parce que mon grand-père est mort à 108 ans, donc il a eu le temps de...
Absolument pas.
Voilà. Les plus beaux films sont souvent marqués par le saut d'une évidence. La première et la dernière image, quand on les rassemble, on dévoile la pertinence. Alors là, soyez attentifs, car si Sam Mendes nous emmène dans la guerre, c'est pour raconter autre chose de plus souterrain qui n'apparaît pas au premier abord, mais en plaçant cette première image et la dernière image du film, j'ai eu une espèce de petite révélation et j'ai trouvé ce film formidablement accompli. 1917 de Sam Mendes. Évidemment, je vous le recommande et ça donne l'occasion donc de jouer un blind test où il va falloir découvrir au travers de 5 extraits que l'on va écouter des films qui se déroulent pendant la Première Guerre mondiale. Premier extrait.
Mon seul propos était de vous rappeler l'héroïsme dont ces hommes ont fait preuve en toute occasion dans le passé.
Nous ne nous occupons pas du passé, nous nous occupons du présent.
Mais mon général, ce ne sont pas des lâches. Donc si certains n'ont pas quitté les tranchées, c'est sans doute parce que c'était impossible.
Ils avaient l'ordre d'attaquer. Leur devoir était d'obéir à cet ordre. Nous ne pouvons laisser les hommes décider si un ordre peut être exécuté. S'il ne pouvait pas l'être, la seule preuve convaincante eût été leurs cadavres jonchant le sol des tranchées. Ce sont des pleutres. Ce foutu régiment est un ramassis de voyous, de larves et de tirs au cul.
Vous en êtes convaincu, mon général ?
Je le suis. C'est exactement ma conviction. Et qui plus est, c'est un fait incontestable.
Film beaucoup plus optimilitariste que 1917, c'est...
Les Sentiers de la Gloire.
Et oui, des soldats traduits devant le Conseil de guerre pour ne pas être sortis des tranchées. Un film seulement distribué en France en 1975, puisqu'il y a eu une autocensure de la part des distributeurs et producteurs. Les Sentiers de la Gloire, donc de Stanley Kubrick. Deuxième extrait.
On se croirait encore en guerre.
C'est que vous ne l'avez vu que d'assez loin. La guerre est pire. Tellement pire. Des centaines d'hectares avec des centaines de cadavres qui noircissent. Plus un arbre. Des trous pleins d'eau d'où sortent un pied, une tête couverte de mouches. Ça pue. Des rats courent par bandes. Mais nous n'arrêtons pas de nous taire. Qui nous écouterait d'ailleurs? Qui nous imprimerait? Les journaux n'en ont que pour le mensonge et le crétinisme galonné. La guerre, avec ses allures dévastatrices, n'a que l'apparence de la destruction. Je l'ai lu, ça! Signé cher fils général! 1 500 000 morts n'ont que l'apparence de la mort! Salaud!
2 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, il faut recenser les soldats disparus, c'est...
La vie rien d'autre de Tavernier.
Et avec Philippe Noiret qui a remporté le César du meilleur acteur en 89. 3e extrait.
Beaucoup de types sont jamais rentrés chez eux après la guerre. On pensait qu'ils étaient morts, non. Simplement, ils s'étaient fait tuer aux archives. Eh bien, Edouard, il voulait que je le tue aux archives. Dans le cahier novembre 18, j'étais sûr de trouver des noms là où les familles n'étaient pas encore informées. Des morts récents, des morts tout neufs en quelque sorte. Il fallait juste que je trouve quelqu'un que personne ne réclamerait. Et puis j'ai trouvé un type de l'assistance publique, Eugène Larivière, impeccable. Les gars de l'assistance, déjà quand ils sont vivants, on s'occupe pas beaucoup d'eux, mais morts. Alors ce jour-là, Édouard Péricourt, il est mort le 9 novembre 18 à la côte 113. Et puis Eugène Larivière, ben, il allait mieux.
Encore une histoire de disparu, une arnaque au monument aux morts par deux rescapés de la guerre dont l'un porte un masque.
Au revoir là-haut.
Oui, film d'Albert Dupontel, sorti en 2017 et qui a valu 5 Césars, dont celui de meilleur réalisateur, meilleure adaptation et costume. Allez, un grand classique.
Moi, c'était avec une brune, à qui se fier, une amie de ma mère, une dame tout ce qu'il y a de respectable, qui s'occupait de bonnes œuvres.
C'est pas de veine, parce qu'en général, chez les gens bien, c'est plutôt la vérole. Pas vrai, Boileau?
Ah oui, ce fut longtemps un privilège, mais il se paie, hein, comme les autres. Tous démocratisent. Ainsi, le cancer et la goutte ne sont pas des maladies d'ouvriers, mais le peuple y viendra, soyez-en sûr.
Et les intellectuels?
Les intellectuels?
Ah, nous, c'est plutôt la tuberculose.
Tiens, monsieur Pindar. Ah, et les bourgeois, alors? Et
des maladies de foie, d'intestin. Ils mangent trop. En somme, chacun mourrait de sa maladie de classe si nous n'avions la guerre pour réconcilier tous les microbes.
Alors, des soldats français détenus, mais des évasions, c'est...
La grande illusion de Jean Renoir.
Film de 1937 avec évidemment Jean Gabin. Dernier extrait.
J'ai entendu hier soir au sujet de votre femme. Et si vous voulez, je peux faire passer du courrier pour elle.
Pourquoi feriez-vous ça? Si vous faites prendre.
C'est pas votre courrier qui nous empêchera de gagner la guerre. Et puis, quand nous aurons pris Paris et tout ça sera fini, eh bien, vous nous inviterez à boire un verre rue Vavin?
Vous vous sentirez obligé d'envahir Paris pour prendre un verre chez moi, vous savez.
Un film qui rassemble plusieurs épisodes de fraternisation survenus en différents endroits du front pendant Noël.
Oui, je crois que c'était Joyeux Noël et c'était Daniel Brühl qu'on entendait ça avec Guillaume,
oui,
Canet.
Tout à fait.
J'avais un doute.
C'est ça. Et il y a aussi Diane Kruder dans cette distribution Joyeux Noël de Christian Carion, film de 2005. Voilà comment ça se fait, ce blind test spécial œuvre de la Première Guerre mondiale. C'était pas si évident parce qu'il y a moins de films qui consacrés à la Première Guerre mondiale
qu'à la deuxième,
de films consacrés à la Seconde, voire au Vietnam, évidemment. Deuxième comédie de cette émission, des rapports hommes-femmes bouleversés au travers du football. Une belle équipe de Mohamed Hamidi.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations?
Cinérama.
On va regarder ça.
La commission de discipline a décidé de suspendre l'ensemble des joueurs du SPAC jusqu'à la fin de la saison.
Moi, je finis la saison, moi.
J'ai eu une idée. Pourquoi pas faire une équipe de filles pour jouer les 3 derniers matchs?
Des joueuses.
Tu joues demain, Marco?
T'as déjà vu des mecs jouer contre des filles, toi, au foot?
Qui serait volontaire? Moi.
Elle craque des couilles.
Oui, ça va, ouais.
Emile, t'écoutes les conversations?
Tout se déroule dans une petite ville nommée Clourières, dont on ne sait pas vraiment hein, s'il s'agit d'un patelin du nord de la France, d'Alsace ou de Franche-Comté. Un peu comme dans les Tuches, en fait. L'action se passe dans une ville de la France profonde, mais dont l'emplacement exact reste flou.
Mais pas dans le sud. C'est... Là, tu as,
par
tu
contre,
as dit
pas dans
nord,
le sud.
Nord-ouest.
Ça, on le sait. Voilà. Voilà. Ça, non. Ça, c'est sûr que voilà, ça n'est pas près de Montpellier. Cette petite ville de Clourières, donc, a une équipe de foot amateur dont les joueurs se retrouvent suspendus suite à une bagarre. Le club risquant de disparaître, le coach, interprété par Kad Merad, décide de reformer l'équipe uniquement avec des femmes pour jouer les derniers matchs de la saison.
Bah t'étais où ?
J'étais juste au football.
Au football ?
Tu sais le truc où tu m'emmènes tous les dimanches sans me demander mon avis ? Marco, au nom de toutes les filles, je tenais vraiment à te remercier. Grâce à toi, grâce à vous, les filles, on vit comme des choses exceptionnelles. Ouais, je suis hyper fière et puis on va te le ramener ce point dimanche. Ouais.
Alors évidemment, voilà, donc toute l'organisation finalement de cette petite ville va se voir chamboulée donc par cette nouvelle équipe de foot féminine. Une belle équipe, c'est le nouveau film de Mohamed Hamidi, à qui l'on doit La Vache ou encore Né quelque part, le créneau de ce réalisateur qui fut aussi le rédacteur en chef du Bondy Blog ou le directeur du Marrakech du Rire, pour situer un peu le personnage. Son créneau, donc, eh bien, c'est le vivre ensemble, une notion toujours traité avec bienveillance et sans une once de cynisme dans ses comédies. Alors si par moments son cinéma se teinte un peu trop d'angélisme, hein, son dernier film par exemple, Jusqu'ici tout va bien, était assez raté de ce point de vue-là, Mohamed Hamidi parvient la plupart du temps à offrir des feel-good movies de qualité. C'est le cas pour Une belle équipe, une comédie, et c'est une première dans sa filmographie dont les personnages principaux sont des femmes. Alors on y parle de football bien sûr, mais surtout de football amateur, du sport en tant que ciment d'une communauté, du sport en tant que seul divertissement finalement dans cette petite ville pauvre. Les personnages de femmes ne sont pas forcément très aboutis, hein, mais ils sont attachants et surtout, et ça c'est bien, ils sont loin des clichés sur lesquels reposent habituellement les comédies françaises. Vous savez, ceux qui voudraient que les femmes soient bêtes, vénales et jalouses. On apprécie que le réalisateur montre ici les femmes comme des personnages bienveillants, solidaires et que le film soit un hommage à la sororité. La sororité, on le rappelle, étant l'équivalent de la fraternité, mais entre les femmes. Après, le film souffre d'un assez mauvais timing, hein, il faut le dire, puisqu'une autre comédie intitulée « Comme des garçons » et traitant exactement du même sujet était sortie il y a à peine 2 ans, il me semble. Oui. Différence notable quand même, dans Une belle équipe, eh bien, les séquences de foot sont très bien filmées. Après, si ça ne suffit pas à vous donner envie de vous déplacer en salle, on peut le comprendre aussi, surtout que c'est quand même du foot amateur. Donc voilà, il n'y a pas forcément le grand frisson devant des scènes de sport que l'on peut avoir devant des films voilà, qui traitent de sport professionnel.
Mais Comme des garçons de Julien Allard, sorti effectivement en 2018, lui reprenait le contexte historique des premières femmes à jouer en club de foot dans les années 60.
Oui, voilà, c'était pas du tout dans la même époque.
Et donc cette idée d'émancipation de la femme, parce que j'ai regardé en regardant la bande-annonce, je me suis dit, ah bah tiens, on retrouve exactement les mêmes éléments, c'est-à-dire que les femmes s'émancipent, les hommes, bah, ils se retrouvent avec des couches, ils ne savent pas quoi faire. Enfin, là, ça pouvait se comprendre dans le contexte des années 60. Là, je trouvais que dans les années...
Disons qu'ici, après, on comprend voilà, que c'est une petite ville assez pauvre qui est, on l'imagine, assez figée voilà, dans le temps, donc qui n'est pas extrêmement progressiste. Voilà, c'est ce que l'on comprend.
En tout cas... Une belle équipe de Mohamed Hamidi. Effectivement, je confirme que c'est quelqu'un qui, au travers de ses personnages, donne une belle idée de l'humanisme. Et dans Jusqu'ici, tout va bien, je trouvais que c'était bien réussi parce que c'était un film sur la banlieue. Et bon, toi, tu pensais que c'était un peu raté au niveau... je ne sais plus ce que tu as dit.
Je trouvais ça extrêmement bien pensant, mais vraiment, vraiment très bien pensant quand même.
Et pourtant, il avait conservé un personnage, je me souviens, il avait conservé un personnage vraiment mauvais qu'on ne pouvait pas changer. Enfin, voilà. Ça permettait de contrebalancer finalement cette vision un peu humaniste et
D'accord, mais je me rappelle pas du tout de ce personnage là. C'est pour ça, pour moi, c'était vraiment une galerie de personnages qui étaient uniquement positifs. Voilà, pour moi, c'était vraiment que ça. Il n'y avait absolument rien pour contrebalancer.
Il y avait un tout petit personnage, mais c'est vrai que son parti pris, c'est quand même d'être positif. Une belle équipe de Mohamed Hamidi est en salle depuis le 15 janvier. Et on passe du foot féminin alors aux monstres qui sortent des profondeurs
monstres
de l'eau.
Monstres féminins, on va dire.
Monstres féminins.
Je ne sais pas, mais souvent dans ce type de film.
Underwater de William Eubank.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Sur une échelle de 1 à 10, les dégâts sont à combien ?
10. On est descendu jusqu'au fond de l'océan.
Et on ne sait pas ce qui en est sorti.
Voilà, en deux phrases, vous avez le scénario. Non, mais je plaisante pas, mais c'est vrai. C'est très, très basique, on va dire. Hein. Alors, après les inédits Space Time et The Signal, Simon Hubbanks abandonne la science-fiction classique pour s'engouffrer donc, dans les profondeurs maritimes, articulées autour d'un récit ultra-classique, ne s'embarrassant pas de sous-intrigues, alors souvent inutiles au sein de ce type de cinéma. Le mot d'ordre d'Underwater est l'efficacité sur le plan narratif. Alors, peut-être un peu trop, tant l'impression de déjà-vu contamine les premières images de cette aventure sous-marine. Une équipe scientifique basée au fond de l'eau fait face à ce qu'elle croit être un tremblement de terre. À force de défier les lois de la nature, donc de creuser, cette équipe a réveillé quelques monstres aquatiques surgis des tréfonds de l'océan. Alors si dans l'espace personne ne vous entend crier, ben finalement ce n'est pas mieux au fond de l'eau. Le modèle avoué de cette production qui a pour mérite principal sa courte durée, à peine 1h30, et une forme de sécheresse reste évidemment alien. Mais à la différence du film de Ridley Scott qui installait patiemment son ambiance claustrophobe, Simon Hubbanks prend le risque d'une forme d'abstraction, alors plongeant d'emblée le spectateur dans un cauchemar aquatique ne laissant aucun répit. Alors présentant furtivement des personnages, ben la psychologie se réduisant à leur acte, c'est tout. À commencer par l'héroïne, incarnée par une Kristen Stewart, très crédible, sorte de Ripley peroxydée, constamment sur régime, pure action girl de la première à la dernière minute. Cette approche radicale fait plutôt du bien, nous évitant les introductions à rallonge, nous expliquant le pourquoi et le comment de la catastrophe et présentant une galerie de protagonistes tout à fait, de toute façon peu intéressante.
Il faut aller à la station.
Mais comment tu veux qu'on y aille ?
À pied. On est limite en oxygène et on va se balader au fond de l'océan.
On ne sait pas ce qu'on va trouver.
Pire idée du siècle.
C'était quoi ça?
Éteins tes projets.
Sortir sous l'eau!
Dès les premières images, illuminées par le talent du génial chef opérateur Boran Bozzelli, alors surtout connu pour son travail derrière une poignée de films de Abel Ferrara, dont China Girl et King of New York, l'immersion au fond des mers s'avère totalement crédible et par moments d'une beauté plastique à couper le souffle. Le réalisateur tire le meilleur parti d'un budget visiblement limité. Le choix discutable par moments de montrer le moins possible les monstres marins crée un climat anxiogène, renvoyant au meilleur de la série B d'épouvante. Mais passer ce plaisir d'assister à un spectacle à l'ancienne, rappelant certaines productions des années 80, si vous les connaissez, comme Mal de Shin Cunningham ou Léviathan de Georges Pancosmato, le film ne parvient pas à maintenir le suspense jusqu'au bout. Ce n'est pas tant la faute d'un scénario anémique que d'une mise en scène qui ne parvient pas à se faire confiance. Alors multipliant là, les jumpscares sans arrêt, les effets de montage saccadés, l'omniprésence de la musique et une caméra qui n'arrive jamais à se poser. Le film n'avance que par adrénaline, uppercut, oubliant une respiration nécessaire. Les rares moments de lyrisme tombent à plat, expliquant alors sporadiquement les affects de nos héros, dont se moquent éperdument, en essayant de conjuguer plaisir vintage et spectacle contemporain, avec à la clé un désir opportuniste de coller à la vague MeToo. Simon Hubbanks ne parvient pas à cisser au niveau des meilleurs représentants du genre. Il reste prisonnier d'une forme de flou artistique, trop démonstratif quand il faudrait de l'épure, et trop timide quand il serait nécessaire de montrer les créatures frontalement. Le design approximatif, à mon avis, des bestioles pourrait expliquer cette hésitation permanente entre le champ et le hors-champ. Est-ce qu'on montre, est-ce qu'on montre pas? Préférant un entre-deux moins probant. Alors les montrer comme ça, dans une espèce de flou, sous l'eau, dans une forme troublée.
Un gros bruit.
Et puis on a l'impression de voir Ouais, ça ressemble plus à... Enfin, il n'y a pas un design à Alien. Hein. On est plus proche de The Thing, à la limite. Hein. Alors sans être déshonorant, hein, loin de là, Underwater demeure un film d'horreur efficace par moment, mais le plus souvent frustrant, notamment parce qu'il partait sur des très bonnes bases, à savoir un refus de l'emphase. En revanche, l'épilogue parvient à créer une dimension évoquant le meilleur de James Cameron, ce qui n'est pas si mal. Et puis Vincent Cassel, en chef de troupe, est plutôt crédible, une fois n'est pas coutume.
Mais arrêtez avec Vincent Cassel.
Ah non, mais moi souvent, je trouve très mauvais. Mais bon.
Bon, ce sera l'objet d'une autre émission. En tout cas, Kristen Stewart, c'est assez intéressant qu'elle fasse un peu comme Scarlett Johansson, c'est-à-dire capable de jouer dans des films
oui, elle
à gros
alterne
budget
entre les deux.
Voilà, et les petits budgets.
Et c'est vrai que là, c'est vraiment le modèle, c'est Sigourney Weaver.
Vous avez fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible.
Ah, si, je vous assure.
Vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma gueule !
Pour la semaine prochaine, vous avez déjà des films.
Le photographe est Lucir Nagas.
Et on verra pour la suite.